Le 11 septembre, on entend plein d'anniversaires du 11 septembre, différentes dates, on oublie, c'est l'anniversaire de ma sœur. On n'entend pas parler. Bon anniversaire, Virginie.
Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. C'est un 11 septembre pour moi qui compte, parce que c'est le jour où j'ai mis mon fils au monde. Alors, pour moi, c'est un anniversaire super chouette. C'est vrai, il est né le jour de la mort d'Allende. C'est vrai, c'était Nixon qui avait fomenté ça avec ses généraux. Mais ça, c'est vrai aussi qu'on en parle moins, parce que tout ce que font les Américains, c'est super bien. Tout ce qu'on leur fait, c'est super mal. Et ben voilà. Bon, en dehors de ça, je déplore énormément les 3000 morts qui ont eu lieu ce jour-là. Ils ne méritaient pas de mourir, ces gens-là. Il n'y en avait certainement qu'un, peut-être, qui aurait mérité cette chose-là. Mais voilà, il en a réchappé. Bon, eh ben écoute, Daniel, tu vois, c'est aussi un bon jour pour moi, puisque c'est l'anniversaire de mon garçon. Allez, salut, Daniel. J'appelais de Savoie. Et tiens bon la rampe, comme on dit chez nous. Arvi, pas.
Bien, écoutez, j'ai beaucoup de peine pour ces gens de Cachan. Ça me rappelle quelque chose. Juillet 62, souvenez-vous, les gens de l'autre côté de la Méditerranée, on les parquait sur les ports de la Méditerranée, justement, et on leur criait « Les pieds noirs à la mer, merci, au revoir. »
C'est Mohan de Montreuil-sous-Bois, originaire de Mahé, un ancien comptoir français de l'Inde. Merci d'avoir parlé du centenaire de la désobéissance civile initiée par Gandhi en Afrique du Sud le 11 septembre 1906. Merci d'échapper à l'ethnocentrisme des médias dominants. Une émission sur les militants de la désobéissance civique en France serait le bienvenu. Gandhi a démontré que la désobéissance civile n'a rien à voir avec le pacifisme contemplatif. C'est au contraire des actes militants de non-violence active, car la fin ne justifie pas les moyens. Bon courage à toute l'équipe.
Bonsoir, Alain Martinez de La Réunion. Nous ne tolérons plus le virage à droite de France Inter, notamment au sujet de l'anniversaire du 11 septembre. Ainsi, il y aurait un avant et après 11 septembre, un peu comme on parle d'un avant et après Jésus-Christ, qui justifierait une nouvelle guerre de religion, mené par le Torquemada de notre temps, George Bush. Si l'on peut regretter certes la mort de 3000 innocents, on ne voit pas en quoi cette date devait être plus parlante qu'une autre, à moins d'estimer que la vie des Américains a plus de valeur à la bourse de l'humanité. Les morts du World Trade Center méritent ni plus ni moins le respect que les 3000 innocents que l'on assassine chaque mois en Irak, oui. Un World Trade Center par mois. Par mois. Que le milieu de civils tués récemment au Liban et qui n'en a pas de date à proposer sur le calendrier très orienté de nos émotions occidentales. À noter qu'avec l'émotion, les États-Unis ont trouvé une nouvelle source d'énergie, finalement un peu coûteuse, propre, et surtout infiniment renouvelables, qu'ils exploitent comme ils exploitent le pétrole à leur seul profit. Si l'on tient à tout prix à faire du 11 septembre un symbole, pourquoi ne pas évoquer celui du 11 septembre 1973, lorsque le coup d'État d'un certain Pinochet, dictateur au Chili, fit des milliers de morts grâce à l'aide de l'ami américain.
Oui, bonjour, Frédéric de Lyon. Je vous appelle, je suis chef d'entreprise. J'ai reçu un coup de téléphone vendredi dernier de GDF qui me proposait un contrat global gaz et électricité. Alors, je trouve ça très intéressant. La société n'est pas encore privatisée, mais déjà, ils sont en action commerciale pour vendre Suez éventuellement. Donc, j'ai été très étonné. Donc, bien sûr, je les ai envoyés un petit peu sur les roses, mais j'aimerais bien que vous allez fouiller un petit peu de ce côté-là. Bon courage, continuez bien, à très bientôt.
Bah, bonjour à l'équipe de la base si j'y suis. C'est Jean-Pierre dans la Manche. Ben, je téléphone suite au reportage hier sur les équipes qui travaillent en banlieue. Et je voulais surtout dire que là, c'était vraiment un grand moment de radio, à mon avis. Le témoignage de Youssef, vraiment, c'était vraiment, vraiment un plaisir d'entendre ce garçon plein d'intelligence et de finesse. Des reportages comme ça, c'est vrai que... Bon, ça dure pas longtemps, un témoignage comme ça, mais vraiment, ça pèse... Dans la tête, ça pèse plein de choses, quoi. Moi, je suis issu des banlieues et je sais tout ça, quoi. Ben, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, bon, donc c'était Jean-Pierre dans la Manche. Et aussi, je voulais vous dire merci pour, suite à la pétition que j'ai reçue, ça m'a fait plaisir, par mail. Allez, au revoir.
Hello, Daniel Mermet et toute l'équipe de la Basse, j'y suis, et aussi les auditeurs. J'ai bien aimé ton petit reportage d'aujourd'hui sur la régie de quartier. Mais j'avais une autre version, un autre modèle de régie de quartier à te proposer. Celle où la régie de quartier sert à capter les jeunes. Une fois qu'ils ont été captés, on les envoie sur le pôle d'insertion. Une fois qu'au pôle d'insertion, on leur a fait faire 2-3 conneries de peinture, etc., on les envoie sur la mission locale. Et puis à la mission locale, on va les envoyer dans des différents dispositifs d'insertion qui ne fonctionnent pas, au centre de formation X de la ville de X. Le but du jeu servant à attester d'une certaine activité pour toutes ces structures et donc rafler des subventions pour l'année prochaine. Naturellement, les jeunes, c'est la cinquième roue du carrosse. On se fiche complètement qu'ils accèdent à un emploi. D'ailleurs, je dirais même pour tout ce personnel social dont je fais partie, ce serait la pire des catastrophes que les jeunes accèdent à un emploi, tu te doutes bien. Voilà, j'ai vu ça de mes yeux. Évidemment, tout le monde est de connivence et tout se fait avec l'argent public, l'argent de l'Europe, l'argent de la région et l'argent de la municipalité. Yahoo, c'est génial. À tel point qu'une structure vient de couler, un centre de formation vient de couler, de déposer le bilan, tellement la directrice et ses petits amis se sont rincés et ont vraiment pillé la structure. Ça a l'air incroyable, mais c'est vrai. Voilà, je voulais relater cette histoire et puis cette vision-là de la régie de quartier. Gros bisous à tous, à beaucoup plus tard. Ciao, ciao.
Et voilà, féroce critique, mais très intéressante critique que cet auditeur a laissé dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Très très intéressant, très très intéressant. Cette critique de ce système de parking, hein, une espèce de grand parking où on envoie formation, mission locale, insertion, subvention, etc. Ce serait très intéressant d'aller plus loin. J'avoue que c'est un doute qui nous a accompagné, qui nous accompagne en vous présentant ces reportages, celui d'hier sur cette régie de quartier où nous allons passer à nouveau une heure aujourd'hui. Ça fait partie des ambiguïtés et des questions que l'on se pose, et je demande d'ailleurs à cet auditeur qui visiblement est un travailleur social de nous appeler sur le répondeur de la Basse, si j'y suis, et de façon à ce qu'on peut-être qu'on essaye d'aller plus loin avec lui. Mais on retrouve là un vieux thème, celui de l'aide, de l'assistance, de la justice ou de la charité, quoi, en somme, hein. Et c'est un thème qu'on va retrouver tout au long du reportage d'aujourd'hui, je le rappelle, donc dans cette régie de quartier. Merci aux AMG, AMG, auditeurs modestes et géniaux, de nous suivre et de nous être fidèles.
Le premier rendez-vous de rentrée du repère de La Pradelle puis Lorins aura lieu ce vendredi 15 septembre à partir de 18h30. C'est toujours au bar du château, chez Tino pour les intimes. Au menu, la nouvelle grille d'Inter et comment résister à la tentative de marginalisation de là-bas si j'y suis. Et à la carte, tous les sujets que voudront aborder les AMG. Ciao et à bientôt. C'était Patrice dans les Pyrénées-Audoises.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs de France Inter. Alors, moi je voulais passer un merci tout particulier à mon cher président directeur général, monsieur Mestralet, puisque je suis un de ses employés. Et je voulais faire remarquer à tous les auditeurs que si cette année on a gagné énormément d'argent, c'est pas fait pour me déplaire, puisqu'on va avoir des primes d'intéressement intéressantes. Seulement, c'est votre argent que nous avons gagné. Car, ne l'oublions pas, et il l'a très bien fait savoir, nous touchons à l'eau propre et sale, l'électricité, les poubelles, et j'en passe et des meilleurs. Donc quand vous recevrez votre facture, pensez un peu à moi, car c'est mon salaire que vous payez. Merci encore d'être des vaches à lait. Au revoir. Donc, vous comprendrez que je ne tiens pas spécialement à donner mes coordonnées, puisque cela pourrait me coûter ma place. Voilà, donc je pense que cela peut faire réfléchir un peu de monde. Voilà. Donc écoutez bien les informations et décryptez-les. Au revoir.
Voilà, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, Daniel Mermet et compagnie. C'est Laurent et Sylvie de Grenoble. Voilà, il est 20h10. Nous venons d'écouter là-bas si j'y suis, tout simplement sur une cassette enregistrée à partir d'une bonne vieille chaîne qui a à peu près une vingtaine d'années. Nous avons programmé la cassette cet après-midi et ça a marché et nous allons continuer toute la semaine et certainement toute l'année. Et l'avantage, c'est que lorsque on n'a pas compris certaines choses, certains messages ou autres, nous pouvons réécouter ad libitum. Bonne chance à là-bas si j'y suis et merci monsieur Cluzel. Ciao ciao.
C'est mon seul endroit où je me sens bien, où on me reçoit bien, où ils sont à l'écoute de moi. Et c'est pour ça que je viens les voir souvent.
Une régie de quartier, c'est en fait une initiative d'intelligence populaire. Pour ma part, je qualifierais ça comme ça.
J'admire leur travail, parce que je pense, grâce à eux, il y a au moins une régie qui fait quelque chose pour le quartier.
Pourquoi ce thème, jeunes de banlieue, nanana, j'en dirais, vous parlez d'indigènes dans... Tu dis pourquoi ?
C'est une certaine manière, on rentre déjà dans le jeu des politiciens de dire qu'en banlieue c'est différent, nanani, nanana, alors qu'on est comme ici, ça manque de mixité sociale et ça manque de thunes et point final. En vrai, on est comme tout le monde.
Mais
ça
fait plaisir quand même.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Moïse, Gomis et Dila Tebi, une initiative d'intelligence populaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous faites quoi la régie de quartier, vous? C'est un lieu de passage?
Moi, c'est un lieu de passage, c'est-à-dire que j'ai travaillé ici pendant un an. Maintenant, je suis au chômage, j'espère que mon patron va m'en prendre, bien sûr.
Quel patron?
Monsieur Azouz.
Ah, la régie de quartier?
Oui, oui.
Vous avez quel âge, vous?
J'ai 54 ans.
T'as quel âge, toi?
Moi, j'ai 27 ans.
Et là, vous êtes tous les deux ensemble, voilà, à discuter, comme deux potes,
bien, comme deux amis. Il me connaît depuis que je suis tout petit.
Voilà. Eh ben, surtout mon fils, il le connaît depuis l'enfance, mon fils.
Ah, votre fils, il a le même âge?
Oui, il a à peu près le même âge, il a 24 ans, mon fils.
Des fois, à l'occasion, on discute, il me raconte un peu
la vie.
Ça me donne un peu, il me donne un peu des conseils, des bons conseils, par rapport au travail, tout ça, de pas lâcher... pas lâcher l'affaire, tout ça, parce que c'est important.
Bah, tu fais quoi, toi?
Bah là, je suis en vacances.
Et avant les vacances?
Avant les vacances, je travaillais dans la restauration collective dans des lycées. C'est le seul truc que je sais faire, la cuisine. Et
tu as appris où? À l'école?
J'ai fait des formations pour, j'ai fait des stages. J'étais persuadé que j'avais faire ça, alors je me suis tapé pour le faire, quoi. Sinon, voilà, quoi. C'est...
Alors la régie de quartier, pour toi, c'est quoi?
La régie de quartier, franchement, c'est... Azouz m'a toujours dit, si j'ai besoin de quelque chose, tu vois, ben viens. Je sais très bien que si un jour je suis vraiment dans une galère, tout ça, nanana, je vais voir Azouz. Je sais qu'il y a la régie de quartier. Toi, même si toi, il y a des téléphones, il y a les
justement sorties. Là où tu es installé, c'est le lieu où on vient taper son CV, il y a l'ordinateur, le téléphone.
Tu as les téléphones, tu vois, pour prendre des rendez-vous, t'as tout.
Donc vous, Amar, vous êtes là à la régie de quartier, vous avez déjà travaillé ici et vous revenez ici pour éventuellement retravailler.
Pour essayer de retravailler si c'était possible. C'est mon seul endroit où je me sens bien, où on me reçoit bien, où ils sont à l'écoute de moi. Et c'est pour ça que je viens les voir souvent.
C'est fort.
Et pendant ce temps-là, il y a des gosses qui crèvent au Biafra. Il y a des gosses qui crèvent au Biafra. Je me souviens de cette phrase-là, moi qui appartiens au monde des changeurs de monde. Je me souviens de cette phrase-là dans des époques déjà lointaines où les changeurs de monde s'agrippaient, s'alpaguaient entre ceux qui... avaient des grands horizons, des grands soirs et des petits matins pleins de révolution et ceux qui disaient « Et pendant ce temps-là, les enfants crèvent au Biafra ». Ça a donné quoi? ça a donné ceux qui disaient les enfants qui crèvent au Biafra, ça a donné par exemple Médecins sans frontières, Médecins du monde. Oui, oui, ils y sont allés. Ils y sont allés en disant, mais ce qui compte, c'est l'urgence, l'urgence. Il y a des choses plus urgentes que ce que vous dites, vous, les guetteurs et les architectes des horizons. Il y a des choses plus urgentes. Ils y sont allés. Ça a donné, voilà. Et l'humanitaire. Et puis les autres, ben, se sont plus ou moins enfoncés dans les marécages, récupérés de ci, de là, ou bien se sont évaporés dans le paysage sans qu'on les remarque trop non plus. Mais la question se pose toujours, celle de l'urgence et celle de l'essentiel. Et c'est ça, c'est là où nous nous trouvons, juste entre les deux aujourd'hui, dans cette urgence sociale d'aider, de secourir, la solidarité tout simplement. Et puis, avec la mouche du doute qui vous tourne autour et qui vous dit, et si ça se trouve, je suis en train d'entretenir le système, et si ça se trouve, et si ça se trouve, et ça se trouve. Ça se trouve tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a ceux qui ont les pattes dans le cambouis de l'aujourd'hui, et c'est avec eux qu'on passe cette heure aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui continuent indéfiniment de regarder des horizons qui s'éloignent, qui s'éloignent, qui s'éloignent.
Du centre-ville, le métro alerte une diligence. Des affiches indiquent un numéro vert pour donner son corps à la science. Dans un ascenseur sans bouton, la France d'en bas remonte à la surface. Vomis par le cul sous la pression des nerfs. Les caméras de surveillance sourient tout en enregistrant la fin du film. Les rêves des femmes enceintes sont sur écoute. Leurs bébés naissent avec toute leur dent. On en fera des banquiers qui boufferont des cuistots.
Vous endormez pas sur vos marbelés. Vos menottes sont pas assez serrées.
La bourse, la météo des riches annonce des licenciements sans parachute. L'homme le plus riche du monde fait applaudir des singes. La boîte crânienne sciée, les téléspectateurs s'endorment. Le port de la muselière est obligatoire dans les musées. On reproche à la mort de sentir mauvais.
Vous endormez pas sur vos marbelés. Vos menottes sont pas assez serrées.
Les insecticides font grossir les araignées. On se passe le cerveau au peigne fin. On fait son plein en essorant des mouettes. On améliore son sourire en se mangeant les joues. Dehors, c'est tellement laid qu'un jour on pendra les architectes à des grues. Névrose en plaques, noyés par balles. On applaudit à la fin du spectacle pour se féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout, d'être resté.
Moi je dis bien que si les quartiers sont des lieux où on peut connaître de la violence, en effet, bah, c'est une violence sociale, c'est une violence qui est issu d'un ordre mondial économique qui est inique, qui est fondé sur l'exploitation, qui est fondé sur comment dire, le mépris, en gros, hein, le mépris, parce qu'on ne respecte pas les gens qui travaillent, les patrons en premier, ils les virent vite fait, bien fait, pour les intérêts de leurs actionnaires, qui sont des banques, je ne sais pas quoi, américaines, ce que tu veux, quoi, tu vois. Enfin, les quartiers sont les réceptacles de toute cette injustice sociale et mondiale, tu vois. Et c'est sûr que ça a des conséquences. Ça génère des mouvements de révolte, des révoltes. Ça génère parfois des luttes. Mais ces luttes, elles sont totalement, comment dire, fondées sur une réalité, quoi. Faut arrêter de dire que c'est autre chose, non.
Alors justement, donc,
Les émeutes, par exemple.
Ouais.
Les émeutes, par exemple.
Ouais. Ouais.
Si je te comprends bien, c'était pas pour foutre le bordel, c'était une révolte.
Bah oui, puis c'est surtout aussi peut-être pour dire on est là, on veut faire partie du de la société, quoi. On est là, on veut jouer un rôle. Et c'est vrai que bon, il y a des situations d'abandon. Bon, ici, c'est vrai qu'on n'a pas connu ce genre de choses, et tant mieux. Je pense que la régie, les habitants qui sont impliqués dans la régie, comment dire, ont été un facteur déterminant. Mais c'est sûr que. Bon, c'est.
S'il n'y avait pas eu la régie, là aussi, il y aurait eu des voitures.
Peut-être. Mais en tout cas.
Parce que là, ici, la révolte.
On a observé que dans les quartiers où il y avait des régies, il n'y avait pas eu autant de. Il n'y avait pas eu de casse, il n'y avait pas, tu vois, que ça soit ici, à Blanc-Ménil ou ailleurs, quoi. Ça joue, ça a un effet. Bonjour Brahim, tu vas bien? Et c'est une réalité, c'est une réalité. Maintenant, moi, pour ma part, sur... bon, c'est la question sociale, ben ouais, il faut que ça soit les habitants qui se l'approprient, d'une manière ou d'une autre. On se l'approprie dans les mouvements sociaux, on se l'approprie à travers ce genre d'initiatives, on peut se l'approprier, mais peut-être de manière, comment dire, spontanéiste dans les révoltes. Mais c'est sûr que les révoltes, bon, ça donne pas grand-chose, parce que les... Bonjour Jimmy.
Ça va, c'est bon.
Sûr que les gens qui les mènent, ces révoltes, les jeunes, eux, ils ont payé plein pot au niveau judiciaire. Hein. On leur a pas fait de cadeau, t'en fais pas. Hein. Voilà, quoi, tout s'inverse.
Là, c'est les gros camions de la mairie qui passent, qui n'est
pas. Non, ça, c'est la communauté d'Aglo. Ils font les voiries extérieures, quoi. Nous, on fait les voiries intérieures. Eux, ils font la voirie extérieure.
Deux gros camions en même temps, pleine commune, ouais.
Voilà, c'est du nettoyage haute pression, mais... Ouais.
Donc, eux, ils font le périmètre.
Voilà, parce que c'est une cité qui est interdite aux voitures. Il n'y a pas d'engin mécanique qui peut rentrer dedans.
Voilà, ça c'est Azouz qui cause, hein. Il y va Azouz, hein. C'est l'animateur de cette régie de quartier Casanova à Aubervilliers où nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous voyez un peu comment ça fonctionne, ces régies de quartier, de l'aide, de l'entraide, des habitants qui se prennent en charge, qui s'organisent à travers des services rendus aux gens du quartier, à travers un certain nombre d'embauches qui sont faites à certains, une volonté de réinsertion, de réappropriation du quartier, de recréer du lien entre les gens. On va le voir à travers des gens supposés différents. C'est vrai que quand on représente ces quartiers sensibles, on hésite d'abord sur les mots, qu'est-ce qu'on va dire, banlieue, quartier sensible, etc. On ne représente qu'un modèle. Hein. Il y a une figure forte qui a été imposée par les médias. Mais là, pour l'instant, bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est la vie normale. Peut-être que dans quelques mois, à nouveau, ça va péter. Toutes les conditions sont réunies pour ça. On n'a absolument rien fait contre ça au niveau gouvernemental, en dépit de promesses, des faits d'annonce, etc. Alors, ben voilà, sur le terrain, on essaye de trouver des solutions. Et cette régie de quartier, Casanova, comme d'autres régies, hein, il y en a pas mal en France, fonctionne pas si mal que ça. Et en tout cas, c'est l'impression qu'on a. On n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de montrer. Et de montrer, on a croisé Jimmy, hein, il a dit ah, salut Jimmy. Et ben voilà Jimmy en pleine action.
Donc là Jimmy, là, c'est l'appartement que vous retapez là.
Ouais.
Et donc là vous faites quoi maintenant là, avec les murs?
Là on fait vite fait du le premier bouchage. Tout ce qu'on voit comme trou, un petit coup de reboussage pour que ça se lisse. Et pour ça, quand on va passer les couches d'enduit, bah ça va pas creuser la deuxième fois, on pourra faire directement le fond.
Toi tu fais ça depuis combien de temps avec la régie?
Ça fait à peu près 6-7 mois je suis en formation dans ce domaine. Et j'en ai fait un petit peu en dehors de la régie aussi du bâtiment. Parce que c'est le truc qui est à peu près le plus accessible, disons.
Et t'en es où au niveau de la décolleuse?
Bah la décolleuse on attend là, on fait un petit peu de rebouchage en attendant. Parce qu'on est un peu bloqué là. Parce qu'on veut pas commencer les vrais enduits là. Hein, monsieur, on veut pas attaquer tout de suite, là. Il est pas fini, le devis?
En principe, on ne devrait pas commencer. On bricole pour ne...
Ah, donc là, il faut s'occuper.
Voilà, pour s'occuper un peu.
Et le bouchage, pour prévoir dès qu'on va pouvoir commencer, on va pouvoir commencer les enduits.
Bah alors, toi, Jimmy, toi, avant la régie de quartier, ouais. Du boulot, t'en trouvais facilement ou...
Bah non, c'est dur à trouver du travail, hein, mais... Comment on appelle ça? Quand on veut vraiment trouver, qu'on se prend la tête, on en trouve. C'est dur, hein, on en trouve.
Donc tu prenais pas assez la tête?
Bah si, j'en ai trouvé du boulot avant, moi. J'en avais, mais pendant, après, c'est de moi, j'étais un feignant, et après, pendant un ou deux ans, j'ai pas trouvé de boulot. Mais ça, je parle, c'est juste avant, ça, mais vraiment, avant, c'était plus dur, parce que c'était le début, je débutais. Donc j'avais rien sous la main, donc là, c'est chaud à trouver du travail. Ils donnent rien, quand t'as rien sous la main, ils te donnent pas de tremplin, ils s'en foutent de ta gueule, et ils font rien pour toi quand t'as rien. C'est pas normal, normalement, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Mais là, quand t'as rien, ils s'en foutent.
Donc, quand tu dis j'avais rien sous la main, c'est-à-dire ? C'est quoi rien sous la main ?
Aucun diplôme, aucune expérience, dans aucun travail. Donc, t'arrives, tu dis tu veux travailler, c'est la première fois que tu veux travailler dans ta vie, tu demandes. Ils te demandent de l'expérience, bah j'en ai pas, et bah ils ne veulent pas de toi.
Et tu postulais pourquoi ?
Plein de boulot, c'était de la manute, comme j'ai posté pour des postes d'aide d'électricien, un peu de tout, hein, ma boulangerie, moi je travaillais dans n'importe quoi.
Mais... Toi tu voulais bosser, t'avais envie, t'étais motivé, mais en face ils disaient, ouais bon c'est non, trop jeune, pas assez d'expérience, pas d'expérience
alors,
du
avant,
tout, pas de diplôme.
Avant c'était surtout que j'aimais pas me lever le matin.
Ah voilà, ah ouais, il y a ça aussi, ouais, quand tu cherches du boulot.
Voilà. Non, mais quand je dis le matin, c'est se lever le matin pour aller au travail, c'était comme moi, je restais grave tard le soir. Pendant la semaine, avec l'accumulation de la fatigue, et après on se lève plus et après ça marche plus. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Mais maintenant, je me couche toujours à 2-3 du matin, mais maintenant je me lève normal, j'ai l'habitude. Je suis dans le bain, comme on dit. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. J'ai à me plaindre sur. On a à se plaindre comme tout le monde, on a à se plaindre sur les aléas de la vie, sur les trucs, on est mal payé, mais c'est pas qu'ici, c'est partout. Parce que c'est vrai qu'avec 950€, on va pas très loin. Moi, j'ai un appartement, je paye 650€ déjà. J'ai que 200€ pile d'APL. Ça fait 450€ par mois à débourser. Et après, les courses. J'ai un enfant et une femme, il reste pas grand-chose.
Et ta femme, elle travaille ou...
Non, ma femme, elle travaille pas parce qu'elle est pas encore à l'école, mon gamin. Et comme elle a perdu sa mère et sa grand-mère il y a pas longtemps, presque à la suite... Elle est pas un peu déboussolée, donc mais elle va travailler dans pas longtemps, elle a envie, elle a pas envie de rester à la maison rien.
Voilà, en attendant, tout dépend de toi.
Ah ouais, c'est clair et net. J'ai 25 ans, c'est mes dernières chances de pouvoir avoir un diplôme, donc je suis là pour avoir mon diplôme.
Heureusement qu'il y avait la régie.
C'est pas la régie, c'est pas la régie, c'est pas le centre du monde comme on dit, mais c'est vrai qu'elle a bien sa place ici, elle a son rôle à jouer ici. C'est pour que tout le monde puisse croquer et tout le monde puisse avoir l'opportunité d'avoir des formations et de connaître le travail comme ils l'apprennent ici, quoi. Enfin, montrer que le travail, c'est pas de la merde. Mais ils nous donnent le goût à ça, justement. Et après, c'est à nous de nous démerder, après, de faire en sorte de faire notre vie, quoi.
Il fait chaud dans ma ville, l'air est chargé, le soleil hostile. Les beaux jours sont arrivés, on n'est pas tranquille. On pense aux vacances, à ce qu'on va pouvoir faire. Construire des projets, se voir partir pour la mer ou le pays, même s'il y a du damala. Sur le trajet en voiture, 3 jours avec la famille. Mais voilà, cette année, rien dans le porte-monnaie. Les poches sont vides, c'est ce qu'il faut remplir en premier. Traquer les intérims et jouer du piston. Mentir sur ce que tu sais faire et avoir les relations. Pour un salaire de misère qui te servira à quoi? Peut-être te payer un séjour, ne plus taxer papa, tu sais. Il a d'autres problèmes, les charges trop lourdes qui viennent. La révision de la caisse pour partir sans que ça craigne. La scène ne change pas, on aide à charger les voitures. Enfin quoi, celle des autres je t'assure. C'est dur quand t'es partant et que ta valise peut être faite, mais la guine te retient dans ton bâtiment. Comme d'hab, je me retrouve le pec dans l'eau. J'espère que je partirai plus tard, enfin avoir ce qu'il faut.
Pas de grain de sable, du goudron trop dur.
La chaleur accablante d'un été en villégiature. En ville on fait des châteaux de briques qui ne tiennent pas.
Y'a pas de saut et de pelle, pas de vacances pour toi et moi.
On sky, l'atmosphère n'est pas au beau fixe. Les gens tirent la tronche et font des mines grises. Une mode qui ne fait pas fureur dans les chaumières. La mauvaise humeur journalière s'accumule et l'effet d'air. Ne pas être prêt, ne pas tout avoir pour Noël rajoute du stress quand les pères ou leurs comptes bancaires qui gèlent. Les mères accompagnent leurs gosses à l'école, les obligent à doubler leurs vêtements, leur cache-colle. Une cagoule pour un hiver trop rude. Se casser la gueule sur le sol devient une habitude. Dur de se tenir à leur âge sur les bancs. Avec cette période, la marmaille pense qu'aux amusements. Les grands pensent aux congés d'hiver. Forfait de remontée mécanique pour laisser la merde derrière. C'est pas facile quand les thunes font défaut. Et encore 2 semaines à regarder le panorama de ton studio. La neige tombe plutôt sur les images crado de ton poste télé. Je sais ce que ça fait aller. Peut-être que ça sera pour une prochaine année.
peut-être qu'on partira une prochaine année.
Pas de flocons de neige, du goudron trop dur.
La froideur accablante d'un hiver en villégiature. En ville on fait des bonhommes de terre qui ne tiennent pas.
Y'a pas de ski de bâton, pas de vacances pour toi et moi.
Donc là on est dans la régie de quartier.
Bonjour, c'est
toi, tu fais quoi ici à la régie?
Je suis médiateur social et culturel.
Et il y a une dame ici avec toi, vous êtes ensemble? Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez comment?
Alouma.
Alouma?
Oui.
Vous, vous faites partie de la régie de quartier ou?
Depuis peu.
Depuis peu, elle fait. Avant, elle rentrait à la régie de quartier en tant qu'habitante, comme militante. Et puis depuis peu, elle fait partie du CA, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Oui, du conseil administratif.
Alors, vous êtes une, Alexandre a dit, une habitante militante.
Militante, oui.
C'est-à-dire?
Je suis militante au Parti communiste.
Depuis combien de temps?
Depuis 1969.
Dans quelle profession à l'époque? Vous faisiez
j'étais
quoi?
J'étais employée d'usine, hein, au S2, dans la métallurgie.
Où ça?
À Aubervilliers. Et ils fabriquaient les filtres à air, filtres à huile, les filtres pour aviation. Donc ensuite, en 81, j'étais mutée à Saint-Ouen. Là, j'ai été formée pour le câblage aéronautique. Et je suis restée là-bas 12 ans. Malheureusement, après la guerre du Golfe, il y a eu le licenciement. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. Puis après, ils ont fait croire que c'était à cause de la guerre du Golfe, qu'ils n'avaient pas de commandes, qu'ils n'avaient pas... voilà. Et puis bon, ensuite, à la suite de mon licenciement, j'ai été très malade, parce que c'est un choc émotionnel. J'aimais mon travail. Après ça, j'ai travaillé dans le 16e. Bon, après, j'ai eu encore un problème de cœur, donc j'ai arrêté, après mon opération. Ouais.
Vous travaillez plus maintenant?
Non. Puis là, je venais de temps en temps à la régie du quartier, que j'admire. J'admire leur travail, parce que je pense, grâce à eux, il y a au moins une régie qui fait quelque chose pour le quartier.
Et qu'est-ce que vous faites?
Je milite, je continue à militer. Par exemple, je suis invitée des fois au journal L'Humanité pour envoyer du courrier, voilà.
D'où tu viens là? Tu reviens d'où là cet après-midi?
Là, je viens de chez moi.
T'as pas été faire du porte-à-porte là?
Non, je l'ai fait hier après-midi.
Vous avez fait quoi?
On a fait des inscriptions de vote, les derniers.
Ah, pour le vote des étrangers, hein.
Et demain, je vais être au bureau de vote toute la journée.
Vous êtes née où?
Je suis née en Algérie. Je venais en vacances, mais vers les années 61. Et puis, l'année 66, je suis venue vivre ici parce que je m'étais mariée avec quelqu'un qui vivait ici. Et donc, je suis restée.
Pour vous, Alouma, pourquoi c'est important d'être ici, dans cette région de quartier? Pourquoi c'est important pour vous de venir vous impliquer ici?
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont peut-être... besoin d'un coup de main, des fois ils sont débordés, et des fois ils... Bon, je sens que s'ils ont besoin de moi, que je serai utile à quelque chose. Pour ne pas rester inutile. Voilà.
Vous avez quel âge maintenant?
Bientôt 60 ans.
Et il y a encore tant à faire.
Ben, j'espère. J'espère. Le plus longtemps possible.
Super, ça y est.
Tant que je peux tenir, je continuerai. Je l'ai fait en Algérie et ben je continuerai à le faire aujourd'hui.
Vous avez fait quoi en Algérie?
Après l'indépendance, hein, j'ai été élue comme syndicaliste, quoi.
En Algérie?
Oui, dans le Parti des Travaillistes. Comme ici, si on dit CGT. Ou... Donc après j'ai quitté parce que je me suis mariée, je suis venue ici. Voilà, et je continue. C'est bien.
Voilà, Alouma rencontrée dans cette régie de quartier Aubervilliers et qui porte une mémoire, qui porte une conscience, qui porte une expérience. Et ce qui est indispensable, évidemment, pour ces, les fameux jeunes des classes populaires qui vivent cette relégation. Quand vous pensez, après tout ce qu'on écoute là, avec tout ce qu'on écoute là, à des mots comme racaille et comme karcher, vous voyez bien qu'il s'agit de... Bon, faut faut il le rappeler, de véritables provocations, d'incitations à l'émeute, ou bien des explications ou des causes ethniques ou religieuses qui là apparaissent vraiment comme aussi des provocations ou des ignorances totales de ce qui se passe, de la vie de ceux qui vivent là, qui vivent dans ces quartiers, relégués ou plus ou moins d'ailleurs, hein, parce que voilà, on vit, c'est la vie tout simplement. On se débrouille, on se bat, on invente des nouveaux liens. Autrefois, évidemment, dans ces banlieues, c'était la ceinture rouge. Et dans la ceinture rouge, il y avait une classe ouvrière, une classe populaire forte. Beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Le pays était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui, je pense. Je songe aux années 50 ou 60. En moyenne, la France était 10 fois, 100 fois, je ne sais pas exactement, plus pauvre qu'aujourd'hui. Mais ces classes populaires étaient beaucoup plus organisées, se sentaient beaucoup plus fortes, avaient un avenir, se disaient que ce serait mieux pour les enfants. Est-ce que ça a été le cas? Vous connaissez l'histoire des 30 Glorieuses, bien évidemment. Et puis pour ces lieux de solidarité, eh bien il y avait des syndicats, il y avait des partis politiques, notamment il y avait évidemment le Parti communiste, mais il y avait aussi les églises et des paroisses assez fortes où les gens pouvaient se croiser, échanger. Il y avait des systèmes de secours, je pense au Secours catholique. Du côté communiste, c'était le Secours populaire, et ces solidarités jouaient, mais il y avait des difficultés de tous ordres, d'intégration, de tous ordres. Mais évidemment, c'était le plein emploi. C'est ça qui a basculé, c'est ça qui a changé, c'est ça que nous vivons. Je ne dis pas ils vivent cela, je dis nous vivons. Alors, il y a la mémoire d'Alouma, et puis, pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, voilà Annie.
Alors Annie, vous êtes la secrétaire de l'association. Beaucoup de gens des classes moyennes en France qui habitent ou ont habité des quartiers populaires partent pour aller ailleurs. Vous avez fait le choix de rester et d'acheter dans un quartier populaire.
Bah parce que je suis issue d'une famille, mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas, elle nous a élevés pour... On était trois, donc elle nous a élevés. C'était le lot des femmes à cette époque-là. Hein. Bon, elle a pu retravailler plus tard, mais bon. Moi, j'étais dans l'enseignement, dans les quartiers populaires. Hein. J'ai travaillé au début, j'ai travaillé sur Paris dans des coins très difficiles à l'époque. Dans le deuxième arrondissement, dans des écoles vraiment de garçons. C'était des écoles de garçons sur lesquelles j'étais, où il y avait beaucoup d'enfants par classe, hein, 35, enfin bon. Et les enfants, bon, les conditions qu'ils avaient, elles n'étaient pas terribles non plus. C'était des quartiers populaires, le sentier. Et les choses que j'ai retrouvées ici, en travaillant ici sur le quartier de la Maladrerie Émile Dubois, je l'avais connu quand j'avais débuté. C'est-à-dire que les enfants du quartier, au départ c'était la rue du Soube, les enfants de la rue du Soube, eh ben, ils n'allaient dans Paris. Ils n'allaient pas ailleurs, ils restaient dans la rue, dans leur quartier. Et par exemple, ils ne connaissaient pas le jardin des Tuileries. Enfin, moi, je les avais emmenés au jardin des Tuileries, je les avais emmenés dans l'île de la Cité. Enfin, je les ai emmenés visiter leur ville, enfin une partie de leur ville. Et là, on constate, avec les jeunes actuellement, c'est pareil, ils ne bougent pas de leur quartier. C'est très difficile pour eux de sortir, d'aller à l'extérieur d'ici. Bah, ils ont des points de reconnaissance entre eux. Et dès qu'ils sortent, bah, ils sont un peu perdus.
Un demi-vie, un demi-mot, dans ces murs nus. Où est l'espace? Ici, c'est c'est le boycottage dès le départ. Devant, derrière, droite, gauche et mur, mur. Comment prendre conscience de sa place sans espace. Murmure pour la même classe. Besoin pourtant vital. Pour certains futiles, d'utiles plantes, de végétaux, d'oiseaux qui font cuicui. Éloigne l'oubli que nature nous sommes. Tu es nature, je suis à demi-vie dans ces murmures. Vital espace, mes murmures. Tout homme devrait pouvoir voir plein d'étoiles de ses murs. Par le ciel on voit la terre, on sent la vie d'autres êtres qui comme moi voient ses étoiles. Ou alors sont Béton Man, Parasite Man, je les Blackman dans ses murmures. Béton Man, Parasite Man, je les Blackman dans ses murmures. Béton Man, Parasite Man, je les Blackman dans ses murmures.
On galère et peut faire couler l'air, bosser, rêver l'air, même la terre et la mer. Manque de verre, c'est la guerre et c'est pas dire foncer. On pourra plus faire marche arrière et tout ça se fait rachère. On pavane, on le canne, on pompane, et gocane. Les bécanes, les bananes avec la recordman, la cabane, la donne. Et c'est courtisane en soutane, le verre c'est pendant un corps. Toute fan, on sirote, on chichote, on sifflote. Et papote, on barbote, et radote, et se frotte, et suçote. Et carotte, et que tout se saute, j'aime pas les messes. Ose, on s'injure, et c'est jure, on s'injure, on s'injure. Nos cultures, nos futurs se murmurent dans les murs. La nature contre la dictature, parce qu'on est pas en train de chercher les murs.
Demi-mot, demi-vie, Blockman, dans ses murmures.
Marre de ses murs, surélevés, de ses structures, de mes structures, dur de s'élever, de s'y élever, d'avoir un pur relevé, pour s'y laver, lever, penser, danser, se lancer. Les murs désormais, mais le sommeil n'y est pas sûr, dans ses murs.
On met en cage les êtres, les pensées, animaux trop peu disciplinés, les sentiments se bradent et s'apprivoisent, ne pas aimer. Tout qui nous entoure au nom du saint sacré, soi-disant, personne n'ose ni tente, c'est ce qui s'en dit les murmures.
Avec l'expérience que j'ai, je sais qu'on va contre un mur. Lorsqu'on boycotte le rap dans les structures, la culture ne joue plus son rôle d'ouverture, mais plutôt la fermeture des territoires préoccupés, français, dur d'éviter les coins obscurs. Les morsures de murennes dans l'arène, où l'amitié les parraine, où la méfiance nous parraine. On peut t'exclure si t'as une fissure, une fêlure. On te vole tes chaussures si t'as une fracture du fémur. Le pied au mur.
La pensée unique qui cloisonne, obstrue les voies, se gourer de Dieu, à se gourer de vie. L'état bâtit des histoires et dans manque d'espace commence. Projeter, relativiser. À demi-vie, demi-mot, Blockman, Parasite Man dans ses murmures.
Ah bah tiens, il y a Mohamed là. Voilà. Mohamed qui passe le Karcher, voilà. Et Patrick, avec la raclette.
Exactement, exactement.
Ah, il y a le moteur là.
J'ai fini celui-là et le côté celui-là.
Ouais.
Je tourne après à gauche.
Ok.
Après tout droit.
D'accord. D'accord, pas de problème. Bien les gars, bon courage à vous.
Donc on se pousse.
Voilà.
Et il est payé, il est, c'est quoi, c'est du bénévolat, c'est...
Pas du tout. Ah bah non, pas du tout. Mohamed, non, Mohamed est salarié. En fait, voilà, moi ce que je fais dans la régie, c'est que... Enfin, c'est une politique que j'ai adoptée. Bon, comme Mohamed, Fennel, c'est les gens qui apportent une plus-value, mais au sens social, tu vois, dans la régie. Et aussi
parce que c'est des anciens.
Ouais, c'est des anciens. Et puis bon, et puis ils ont l'amour du quartier, et puis ils ont l'amour de ce qu'ils font. Et ils aiment bien la jeunesse, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, ils s'investissent pleinement. Eux, ils sont en CDI, je les titularise parce que même c'est quand même, ça leur permet d'envisager l'avenir, leur retraite et tout sereinement. Mohamed, par exemple, quand je l'ai rencontré, lui, il venait du bâtiment. Il avait connu deux employeurs qui ne l'avaient pas payé carrément. Il était relativement écœuré par les conditions de travail. Il voulait plus trop travailler. Quand on s'est vu à la régie, bon bah c'est devenu autre chose quoi, tu vois. Là il a retrouvé le goût du travail parce que c'était un travail utile. Comme je dis ici, il a une signification politique forte le travail dans le cadre de la régie. Tu vois, et ça c'est très important. Ça valorise aussi la personne. Et moi en gros c'est que la régie c'est temporaire pour les moins de 25. C'est leur avenir, il leur appartient et franchement, ils ont un grand avenir. Mais c'est sûr que pour les personnes qui avoisinent la cinquantaine, qui viennent à la régie, je fais tout pour les garder et pour les titulariser sur leur poste, quoi, tu vois.
T'as dit, Azouz, le travail a une valeur politique forte.
Oui, tout à fait, parce qu'il remet la personne au cœur de la cité, comme un acteur de la cité. Et en plus, il fait tomber des préjugés graves. Quoi, ça qui est bien, quoi, tu vois. Parce que quand les... quand les habitants lambda, ils voient Ali, Sima, Daouda, Mamadou travailler, ben, ils ont une autre perception de la jeunesse. Et c'est là où les idées de Sarkozy, elles commencent à s'évaporer.
À passer sous le Karcher.
Voilà, à passer sous le Karcher, exactement. Et tu vois, et c'est ça l'enjeu. C'est chasser ce sentiment d'insécurité là qui nous plombe tous, qui cautionne une industrie du sécuritaire mais qui est complètement délétère, qui est là pour instaurer un ordre social délétère où les discriminations seront pléthoriques, parce que le sécuritaire c'est vraiment la fin de la société du droit et c'est le commencement d'une autre société. Franchement, on pense que on peut lutter contre la sécurité avec l'intelligence populaire. Voilà, mais pas avec la coercition, la répression. C'est inutile, ça. C'est inutile. Ça ne fera qu'empirer le problème. Et je crois que l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie alternative, hein, sincèrement. Hein. Je dis ça sans prétention, parce que on fait tous des erreurs, on fait tous... Mais là, quand je vois ce monde qui est bourré d'experts, de gestionnaires, et qu'on n'a jamais été autant dans la misère, je me dis que ces gens-là, je sais pas, il y a un problème. Hein, je sais pas où sont leurs compétences, mais il faudra qu'ils me disent d'où ils sortent, hein, parce que je suis sidéré. Hein.
Je pense à un sketch de Coluche, ça.
Ah ouais, je sais pas, mais...
On voit un énarque dans le désert.
Bah, je sais pas, non, mais regarde les mecs, ils ont tous 30 années d'études, dans lequel monde on vit. C'est dingue, quoi, voilà. Je suis mort de rire.
Dans les villes américaines, les pauvres sont partout. Ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Les pauvres, bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi. Choisir en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil, parce qu'en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors les gens dans la misère.
Voilà, petite parenthèse avec M. Balkany dans son numéro avec les X-Men, vous vous souvenez. Et puis, auparavant, c'est Azouz, donc l'animateur de cette régie de quartier qui nous dit comment il voit les choses. Et Azouz lui-même, il est issu de l'immigration, comme on dit. Hein. Ses parents, si j'ai bonne mémoire, sont venus, il nous avait raconté ça, d'Algérie, son papa a travaillé, je crois, en Lorraine, vers Longueville, etc. Et ensuite, il s'est retrouvé, lui, dans la banlieue parisienne. Et il anime maintenant ce centre avec ses convictions et avec toutes les limites et les compromis que cela implique, bien évidemment. Mais on ira plus loin pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne exactement. Mais là, ce qu'on voulait, c'est donner avec Dila et Moïse une autre image en attendant la prochaine émeute, disons.
Alors toi, Sima, t'es au chariot, là. Mais pourquoi Mohamed, il a la tenue, il a les bottes en caoutchouc, le pantalon, l'uniforme de la régie de quartier avec
moi,
le petit gilet
pas.
Et puis toi, t'es habillé comme avec tes belles baskets Nike, ta casquette, ton beau sweatshirt Nike.
Si, j'ai le truc jaune, le gilet jaune. Mais je les mets à laver. Mais je mets pas les bottes.
Pourquoi t'es pas à l'aise ou parce que c'est la honte?
Non, je suis pas à l'aise.
Et toi, t'as quel âge?
Moi, j'ai 21 ans. Ouais.
Et t'es en CDI aussi, comme Mohamed?
CDD.
Et t'habites où?
J'habite là, la Mala.
Donc tu vas aller passer le quartier aussi,
ouais,
avec Mohamed?
Mohamed, ouais.
Qu'est-ce que tu faisais avant, toi, à la régie de quartier?
Moi, j'étais à l'école.
T'as arrêté il y a combien de temps?
Il y a quoi, peut-être 2 ans.
T'as été jusqu'où à l'école?
En terminale BEP comptabilité.
T'as eu le BEP?
Non, c'est pour ça que j'ai arrêté.
Tu l'as passé, tu l'as loupé, et t'as décidé d'arrêter.
Ouais.
Pourquoi t'as pas recommencé?
Je sais pas, j'ai pas envie. Et vas-y.
Et pendant 2 ans, t'as fait quoi?
J'ai galéré. Après j'ai trouvé un petit travail à côté de chez moi. Sinon, vas-y, moi, je travaille pas. J'ai jamais... Genre, je sais pas. Il y a qu'eux qui m'ont motivé à travailler, sinon, j'aurais jamais travaillé. Hein. Franchement, ça m'intéresse pas.
Hein. Et pourquoi?
Ça gagne pas bien, et vas-y.
Ça gagne pas bien?
Bah,
tu gagnes combien, là?
900 euros et quelques. Le SMIC.
Comment ça, ils ont réussi à te motiver? C'est-à-dire que toi, tu voulais vraiment pas travailler?
Ouais, j'étais pas motivé. Genre, je n'étais pas motivé à travailler. Et vas-y. Et après, Azouz est venu nous voir. Il a dit, ceux qui veulent travailler, ils viennent. Après, moi, j'étais volontaire. Je suis parti. Il m'a pris.
Ah, donc Azouz est venu...
Ouais.
Comment t'aurais fait pour gagner de l'argent alors?
Je sais pas, c'est personnel.
Tu te serais débrouillé.
Tu
aurais préféré te débrouiller plutôt que d'aller travailler avant de rencontrer Azouz.
Ouais.
Et ça fait combien de temps que t'es à la régie de quartier maintenant?
Ça va faire un an quand même.
Et là alors? Tu regrettes? Tu regrettes pas?
De quoi? D'avoir travaillé?
Ah ouais?
Non, tranquille.
T'habites encore chez tes parents?
Ouais.
Famille nombreuse?
Ouais, famille nombreuse.
T'as combien de frères et sœurs?
Trois frères et trois sœurs.
Et tes parents, ils font quoi?
Bah, ils travaillaient avant et là, ils travaillent pas.
C'est-à-dire, ils sont à la retraite ou au chômage?
Non, ils sont pas encore à la retraite.
Tout à l'heure, tu disais, je suis allé jusqu'au BEP, BEP compta. C'est ce que tu avais choisi de faire?
Ouais.
Tu voulais être comptable?
Pas totalement, mais bon. Si je l'aurais eu, ouais, j'aurais pourquoi pas.
Tu aurais continué après le BEP?
Voilà, ouais. C'est ici?
Oui, monsieur. On va faire un peu de quartier, bon, jusqu'à 5 heures. Après, bon, on va partir.
Il est quelle heure, là?
14 heures, monsieur.
Attention, la mise en route bientôt.
Tiens, c'est moi. Tu tires le pistolet comme ça.
Je le fais?
Ouais.
Vas-y.
On est à la régie, il y a du monde.
Voilà, il y a de la jeunesse. Il y a là, il y a de la jeunesse.
Vas-y, ça va?
Ouais, ça va, cool.
Ça va? Tu vas bien?
Normalement, il avait une demande. Tu sais si t'avais demandé à Renauti ou pas?
Ah non, j'ai pas demandé, Nordine.
Il faut qu'on aille les voir, là.
Ouais, si moi j'y vais...
On va aller les voir.
Il vaut mieux que ce soit vous que moi.
Ok.
Dans le sens où...
Ok, excuse-moi,
non, c'est pas grave.
J'ai zappé.
Tu vois, Alex,
ouais.
Tu veux j'aille
voir? Vas-y, Alex. Vas-y, Alexandre.
C'est dans le sens, si
tu veux. Ok.
Je fais ça un peu.
D'accord, il n'y a pas de problème. Alexandre, je vais voir la clé, là, il faut que j'ouvre à Samir.
Enfin, faut que je ferme. Là, t'as la clé du local, s'il te plaît?
Non, moi, je l'ai pas.
Ah bah, c'est moi qui l'ai, hein. Hop, on y va. Voilà, Samir, excuse-moi. C'est moi qui les avais, j'ai oublié. Tu fermes, tu me la ramènes? T'es avec Kaï, là, ouais? Vous avez arrosé là, j'ai vu, c'est vachement bien, hein, Samir. Hein. Ok, d'accord. Ok.
C'est fort.
Voilà, Régie de quartier, une initiative d'intelligence populaire, comme dit Azouz, que nous remercions, ainsi que Yasmine, Jimmy, Debia et toutes les forces vives de la région, de la Régie de quartier. C'était un reportage de Dilatébi et Moïse Gomis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.com. Vous pouvez la podcaster. Vous avez 24 heures pour cela. Et ou bien vous pouvez la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org, où elle sera archivée. Il y a plus de 900 émissions, 900 numéros de là-bas si j'y suis qui sont archivés sur ce site qui, je le rappelle, a été créé par un auditeur fidèle, un AMG, un auditeur modeste et génial. On nous a fait remarquer qu'il fallait au pluriel mettre ça au féminin aussi parce qu'il y avait des auditrices modestes et géniales aussi. Ah ouais, on nous en laisse passer aucune, mais c'est parfait, c'est très bien, on est très content. Technique aujourd'hui, Fabrice Demaz et Jean-Claude Barré, c'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert au répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. et puis n'oubliez pas non plus les repères de là-bas si j'y suis,
Je vous rappelle le fonctionnement pour ceux qui nous découvrent. Le repère, c'est dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville où vous voulez. Vous vous dites, tiens, il y a peut-être d'autres habitants, des gens du coin qui écoutent aussi la basse UGF et France Inter. Pourquoi pas se retrouver? Alors vous dégotez un bistrot, un endroit sympa, et où vous décidez de vous retrouver de temps à autre. Vous nous le dites, vous nous appelez sur le répondeur de la basse UGF. On discute et ensuite, voilà, vous faites partie des repères de la basse UGF. Où se réunissent déjà depuis pas mal de temps, depuis un an, au fur et à mesure des saisons, les AMG, les auditeurs modestes et géniaux de la basse UGF et de France Inter. Réclame.